toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut aisément s'arrêter.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé L'oraison, racines, fleurs et fruits, 8e épisode, avril 2026, intitulé Ce qui mûrit. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Il a le goût si transformé qu'à tous les goûts il défaille. Celui dont l'amour est brûlure a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux et celles qui nous ont rejoints durant l'oraison. Comme il y a tout de même quelques personnes nouvelles, j'aimerais tout de même une nouvelle fois évoquer ce qu'on explore un petit peu par ce thème qui est un petit peu un champ, un racine, fleurs et fruits. Dans les rencontres passées, on a eu, je pense, l'occasion de voir ensemble que l'oraison, pour reprendre l'expression de Thérèse, l'oraison c'est en fait, elle commence dans l'acte de descendre au jardin, et ce jardin est un jardin où nous espérons, et nous avons raison de l'espérer, parce qu'en fait c'est déjà une expérience que nous avons faite et dont nous voudrions qu'elle se reproduise. Nous espérons une rencontre vive, une rencontre un petit peu comme Marie de Magdala au matin de Pâques, puisqu'on entend Pascal, qui elle est allée au tombeau, donc elle n'avait aucune raison d'espérer une rencontre, et pourtant elle l'a vécu cette rencontre. Plus largement, le thème de la rencontre, ça traverse tous les récits de Pâques. Pâques, c'est d'abord des récits de rencontres. Seulement, Thérèse le situe dans un jardin, donc pas simplement dans des lieux variés, mais dans un lieu où on revient régulièrement. Et on revient régulièrement parce que ce jardin, il figure ce lieu intime en nous où nous avons déjà éprouvé quelque chose de cette rencontre avec le vivant, et nous croyons et nous espérons que cette rencontre va se reproduire. Et c'est en y allant que nous découvrons qu'elle se reproduit et qu'en même temps elle se transforme, elle se révèle, elle s'approfondit, elle se simplifie. Elle pousse ses racines, elle pousse ses fleurs aussi, tes feuilles. Lorsque j'avais proposé ce thème, enfin je l'avais proposé suite à ce que j'avais un petit peu entendu de plusieurs d'entre vous, l'une des harmoniques en quelque sorte, c'est ce que produit, ce que génère, ce que sécrète l'oraison, cette pratique quotidienne de l'oraison pour chacun, chacune d'entre nous, de façon très variée, très différente, avec des rythmes différents, etc. Mais cette pratique, on pourrait dire cette discipline, c'est une forme de discipline, hein. Vous savez que discipline, c'est le mot certainement le plus adapté pour ascèse, hein. L'ascèse, c'est pas synonyme de privation, c'est synonyme de discipline. C'est la discipline de l'athlète, c'est la discipline de l'artiste, puis tout simplement la discipline de chacun, chacune d'entre nous qui essayons sans trop non plus nous gendarmer nous-mêmes, de mener une vie au quotidien qui est un peu d'allure, et puis qui intègre aussi le fait qu'on n'est pas tout puissant dans notre vie, sans même compter les autres. Déjà, pour nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on n'est pas tout puissant, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose que j'avais un petit peu effleuré la fois passée en parlant de la pauvreté. Et de ce retournement de l'expérience de pauvreté qui n'est plus une expérience de dénuement, mais une expérience de libre jouissance de notre vie sans possession, sans nécessité de maîtrise. Je le dis autrement, je l'avais évoqué d'une autre façon. Au travers de ce que j'ai essayé de dire de rencontre en rencontre, et pensant à la rencontre d'aujourd'hui, il y a une intuition, en quelque sorte une idée qui m'est venue que je voudrais vous partager ce soir. C'est que si je reprends d'abord ce que je viens d'évoquer très rapidement, pour chacun, chacune d'entre nous, je pense qu'il y a tout de même une constante, parce que pas simplement pour nous, les 20 réunis ce soir en direct durant cette rencontre, mais pour des millions de personnes à travers le monde, dans la prière, dans la prière silencieuse que nous appelons l'oraison, il y a cette rencontre qui donne naissance à une relation, et cette relation très vite, j'allais dire, elle devient un peu incontrôlable au sens où nous découvrons toute sa beauté en même temps que nous réalisons qu'elle nous échappe, puisque c'est une relation, donc elle se joue à deux. Sinon, ce serait simplement quelque chose qu'on plaquerait sur l'autre, sur Dieu en l'occurrence. En évoquant rapidement l'oraison, il me venait aussi à l'esprit que nous réalisons que c'est parce que nous acceptons de perdre pied d'une certaine façon, ou de perdre la trace dans un premier temps. C'est à cette condition-là qu'il peut vraiment y avoir une aventure de l'oraison. Sinon, on reste comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques qui n'a pas l'intention de bouger de son lit. Ben, c'est dommage pour elle parce que son bien-aimé vient de partir. C'est aussi ce que Jean de la Croix évoque dans le cantique spirituel, et c'est une insistance de tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la vie spirituelle. La vie spirituelle n'est pas une entreprise réservée à une élite. La seule chose qui nous est demandée, c'est d'accepter de partir à la suite de celui qui nous a touchés et puis qui nous entraîne, et d'accepter de ne pas savoir à l'avance. Bon, en disant cela, on rejoint finalement une grande dynamique de la vie. Si on s'imagine par avance connaître ce qu'il en est de notre vie, la prévoir, la planifier, la formater et prendre les coachs qui vont nous aider à la rendre aussi plate qu'un asphalte tout récemment goudronné au Québec. On sait que les Verts du Québec a tout fait de rendre cet asphalte tout autre chose que ce qu'il était au jour de son coulage. Si on fonctionne comme ça pour notre vie, donc aussi pour notre raison, ça marchera jamais. Il reste qu'il y a tout de même quelque chose de déroutant, puis c'est bien de se le rappeler parce que régulièrement dans notre vie d'oraison, enfin régulièrement, pas avec régularité, mais plusieurs fois dans notre vie, passée et future, on a le sentiment de perdre le fil, d'avoir perdu le fil. Ce que j'ai essayé d'évoquer durant ces rencontres, durant cette saison, c'est que ce qui est en jeu en nous est de l'ordre du mûrissement. Et ça, c'est un mot que je vais utiliser ce soir, ce qui mûrit. Parce que ce qui mûrit n'est pas le fruit d'une technique. Ce qui mûrit n'est pas quelque chose que l'on construit. C'est pas quelque chose sur quoi on a prise. On met tout en œuvre pour que ce qui mûrit puisse mûrir. Je pense qu'on est plusieurs à avoir fait des semis. Alors moi, je me fais aider d'amis parce que j'ai pas forcément les pouces verts. Donc au bout de mon couloir, enfin du couloir de 7 étages du couvent, j'ai une installation faite par Francis, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a bricolé tout un système de néons avec des poulies pour que je puisse monter mon néon au-dessus de mes plants au fur et à mesure que mes plants poussent. Ça germe, ça pousse, puis plus tard, quand ce sera au potager, ça donnera des fleurs et des fruits. Il reste que le mûrissement est quelque chose d'organique, que l'on accompagne, que l'on favorise, que l'on protège, parfois qu'on cherche à doper, ça c'est moins bon déjà, mais il reste que le mûrissement n'est pas quelque chose que l'on peut produire comme tel. En passant, on a déjà parlé de cela. Parler de l'oraison en termes de ce qui de racines, fleurs et fruits, c'est parler d'oraison en tant que ça concerne tout notre être, et non pas une petite activité particulière circonscrite dans des bacs à fleurs où on pourrait faire pousser notre oraison. Et ça, je reviens sur cette question, pas cette question, mais cette expérience de mûrir, parce que tous et toutes, depuis notre adolescence jusqu'à aujourd'hui, on a passé des caps, on a passé des étapes, et certaines étapes étaient des étapes de croissance, certaines étapes étaient des étapes de projet et de succès éventuellement, d'entreprises en tout genre, parfois d'échecs d'ailleurs. Mais là aussi, on en tire des leçons. Mais Tout cela, et puis il y en a encore devant nous tous et toutes, hein, des projets, etc. Le mûrissement est un petit peu autre chose, c'est quelque chose de plus profond. Parce que lorsque je me lance dans une entreprise, je suis capable d'avoir une certaine image, une certaine figure de ce que je vais entreprendre. Lorsque je me lance dans quelque chose d'important dans ma vie, hein, je ne parle pas seulement d'une entreprise commerciale, j'ai une certaine idée de ce que je poursuis et une certaine donc conscience que j'atteins ou non ce que ce que j'avais visé. Dans le mûrissement, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'image, on n'a pas de représentation de celui ou celle qu'on sera quand on aura vraiment complètement mûri. Et du reste, on comprend bien que c'est un tout petit peu différent de nos fruits et légumes, parce que si vous laissez vos légumes et vos fruits un peu trop longtemps mûrir, ils vont pas mûrir, ils vont pourrir. Dans la vie humaine, il n'y a pas de pourrissement. Ou plutôt, la conséquence du mûrissement n'est pas un pourrissement. Je veux dire par là que je l'évoque très vite, hein, c'est derrière, c'est toute une très très belle question, un très beau thème de sagesse et de psychologie aussi. Mais il n'y a pas de terme au mûrissement dans notre humanité, parce que pour savoir quand est-ce que nous sommes à point, enfin pour fixer un terme au mûrissement, il faudrait savoir quand est-ce qu'on est mûr à point. Et vous comprenez très bien, on le saisit tous. Je vous vois sourire, on le saisit tous que c'est pas ainsi que cela fonctionne. Au reste, on le sait très bien, pour d'autres, et peut-être que c'est aussi notre cas, que sur certains points, on met beaucoup de temps à mûrir. Beaucoup de temps à mûrir. Mais ce que je veux souligner, c'est que le mûrissement dont je parle a tout de même quelque chose d'assez mystérieux. Parce qu'une vie accomplie, une vie achevée, une vie bien remplie, ça, on est capable de le reconnaître chez les autres. Hein. Il y a des gens dont on se dit, bah, la vie est déjà bien remplie, là. Alors, on ne lui souhaite pas de mourir demain, mais il reste que... on parle parfois de personnes, et aujourd'hui même, un jeune passé au couvent et qui devait rentrer à Montréal parce qu'un ami de la famille est décédé. Et puis, je me dis, quel âge avait-il? Bah, 90 ans. C'est une belle vie. C'est une belle vie. Ah, donc une vie bien remplie, une vie bien occupée, une vie bien employée, une vie consacrée à des choses qui en ont valu, qui en ont valu le coup finalement. Ça, on est capable de l'évaluer les uns pour les autres et c'est beau. Mais le mûrissement, puis j'aimerais qu'on le garde un petit peu à l'esprit. La vie qui mûrit, c'est encore plus mystérieux. C'est toujours au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, pas au-delà en termes de temps, mais c'est un mystère qui est plus profond, et particulièrement pour cette raison que si nous mûrissons, pour qui et à quoi mûrissons-nous? L'une des expériences que nous faisons, il me semble, dans l'oraison, qui peu à peu se détache, et elle se détache dans une oraison qui, je ne dis pas que c'est une règle de physique, mais je constate que de tout ce que j'entends, des expériences partagées, c'est une constante chez beaucoup. L'oraison va souvent vers je cherchais un mot, et puis c'était un mot qui n'existait pas, qui me venait en tête, c'était le mot accalmissement. Ça n'existe pas, ça, par exemple. Mais dans notre oraison, c'est pas simplement des accalmies. Hein. Quand on fait de la voile et quand on fait de la navigation, on sait que les accalmies, ça dure jamais longtemps. Juste après, la mer se reforme de nouveau, c'est dangereux. Non, mais dans notre vie d'oraison, passer les craintes, les peurs, voire les angoisses que Dieu nous a laissées, je crois que tous et toutes, nous avons traversé, puis peut-être que nous retraverserons ces épisodes-là, nous arrivons à quelque chose de plus apaisé. Dans notre oraison, Thérèse d'Avila l'évoque dans sa propre vie à partir des années 1560, après 26 ans de vie avec des hauts et des bas. 26 ans, c'est bien de se souvenir quand même. Si on trouve que c'est long, bah, sachons que Thérèse d'Avila, ça a été long pour elle aussi. Cet apaisement profond dans l'oraison, il me semble que il apporte, là encore, je n'énonce pas une loi, hein. Mais l'une des choses que nous commençons de pressentir dans l'oraison, c'est que, au-delà de toutes ces tempêtes, au-delà de toutes ces nuits, au-delà de tous ces passages à vide, On a persévéré tant bien que mal, mais il y en a un autre qui a persévéré plus que nous, c'est Dieu. La Trinité Sainte, elle est persévérante. Et si pour mûrir, ça prend un soleil, ben, nous, le soleil, on sait qui c'est la Trinité Sainte. Et c'est pas simplement un soleil qui se contente d'être, donc voilà, les rayons partent, puis ça doit faire mûrir quelques humains sur Terre, mais c'est profondément un Dieu attentif. C'est un Dieu qui prend soin, c'est un Dieu qui... C'est un petit peu fou, c'est à hauteur de ce mystère absolument insondable de l'existence, de la coexistence de 7,5 milliards de consciences sur Terre. Il y a 7,5 milliards de consciences sur Terre, c'est un mystère, et s'ajoute un deuxième mystère qui en fait est interne au premier, qu'il y a un Dieu qui est dans le mystère de chacune de, 7, de ces 7,5 milliards de consciences. Et ce Dieu est attentif. Et c'est ce Dieu de vie qui accompagne ce mûrissement. Parce que lorsque je parle de mûrissement, je l'évoquais lorsque je disais que notre mûrissement va pas vers un pourrissement, mais notre mûrissement, il est le mûrissement de notre être au-delà de la mort. Donc il y a quand même la mort. Je peux pas, et je crois qu'Antoine Pascal sait bien de le dire. Il y a une expérience qu'aucun d'entre nous n'a faite et que nous ferons tous de telle sorte qu'on ne pourra jamais en parler, qui est l'expérience de notre mort. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais enfin d'avoir peur, je veux dire par là, ça fait partie de notre vie. Du reste, il y a quelque chose de tout aussi étonnant, mais tout ça est relié, c'est cette question du mûrissement. C'est que l'une des choses qui nous fascine le plus, nous autres, c'est de voir mûrir. D'abord de voir grandir, puis de voir mûrir ceux et celles qui nous suivent, que ce soit nos propres enfants ou les enfants des autres, au moins pour ce qui me concerne. Or, nous ne les verrons jamais dans leur plein épanouissement parce que nous serons très vieux, voire morts. Je pense à la plus jeune de mes nièces, la plus mystérieuse, ma petite nièce handicapée. Que sera-t-elle cette toute petite nièce dans son plein épanouissement, de petite nièce, de jeune femme, de femme, avec cet étonnant handicap de croissance? Ben, je ne le sais pas parce que je serai probablement mort. Mais pourtant, ce qui mûrit chez elle contribue, ou plutôt, et c'est là que je veux en venir, ce qui mûrit chez elle, je le perçois parce que moi-même je mûris. Et c'est dans le fond l'intuition que je voulais vous partager, qui n'est pas qu'une intuition, qui est quelque chose qui m'est apparu plus clairement ces dernières semaines. L'intérêt profond, je parlais à l'instant de l'intérêt profond, j'allais presque dire viscéral, de la Trinité Sainte pour chacun, chacune d'entre nous. C'est probablement de là, en tout cas je vois pas d'autres sources possibles, c'est probablement de là que nous vient, puisque nous participons à sa vie, même si c'est imparfaitement, même si c'est pas encore mûr, nous participons, je pense, à cet intérêt profond de Dieu pour les créatures, seulement nous sommes une créature, et nous le percevons dans l'intérêt que nous avons pour les autres créatures et pour cette saisie intuitive. Que ce qui se joue chez les autres, c'est aussi un mûrissement. Parce que, bon, j'aime bien parler de ma petite nièce, enfin, de l'une de mes nièces, la dernière, parce qu'elle est d'autant plus mignonne qu'elle est déroutante, une raison chromosomique fait que son développement est anormalement lent. C'est une petite enfant miniature. Alors, il est vrai que ces progrès sont d'autant plus impressionnants que c'est les progrès d'une petite qui va moins vite que les autres. Bon. Et nous sommes tous saisis, alors je parle de ma petite nièce, mais on a tous soit des enfants, des neveux, des nièces, des gens qu'on côtoie, des adolescents qui passent des phases plus délicates, des adultes qui en passent des non moins délicates, etc. Donc, là encore, je parlais tout à l'heure de progrès, d'accomplissement, de etc., d'entreprise. Hein. Est-ce que c'est encore possible au Québec? Ça doit quand même encore être possible qu'un couple décide de se bâtir une maison. Je sais que c'est plus difficile qu'avant, mais c'est une entreprise. Et puis qui est partie pour plusieurs dizaines d'années. Tout ce qu'on évoque là sont des choses dont on est capable de mesurer l'importance et effectivement ce que cela engage de la personne. Mais encore une fois, je pense qu'il y a derrière quelque chose de plus profond, qui ne nous vient pas spontanément lorsqu'on parle des efforts, des progrès, des réussites, et puis éventuellement des déboires des uns et des autres. C'est ce qui mûrit. Et je pense qu'avant d'y penser justement, et d'en parler dans le discours, entre amis, familial, etc., il y a cette intuition plus profonde, cette perception plus profonde que Il se passe chez l'autre un mystère qui est le mystère de toute sa personne, qui est foncièrement de l'ordre du mûrissement. Je fais une petite parenthèse. Je ne me souviens plus s'il y en a parmi vous qui ont un petit peu travaillé Edith Stein, qui était à l'atelier Edith Stein. Lorsque Edith Stein écrit sa thèse sur l'Einfühlung, hein, l'empathie, j'avais eu l'occasion de dire que le terme d'empathie qu'on utilise aujourd'hui dans les médias est en fait un faux usage du terme, parce que c'est pas empathie qu'il faudrait dire, mais c'est sympathie. Aujourd'hui, quand on parle d'empathie, quand on dit que quelqu'un manque d'empathie, en fait, c'est pas le bon terme, c'est sympathie. En tout cas, en français, c'est sympathie qu'on devrait dire, parce qu'empathie n'a pas de connotation de sympathie. Je ferme ma parenthèse, mais j'avais deux parenthèses, donc j'ai encore le droit à une parenthèse. Lorsque Edith Stein parle d'empathie, elle évoque ce mystère philosophique que je ne vais pas creuser plus que ça, mais c'est curieux qu'on retombe dessus en parlant d'horizon, du fait que nous saisissons intuitivement que la personne qui m'est parfaitement inconnue en face de moi, c'est une personne humaine qui, c'est un être de chair, ben, pas simplement de chair au sens de corps, là, mais c'est une personne éprouvante, d'entrée de jeu, immédiatement. C'est peut-être d'ailleurs une personne qui m'éprouve en passant, là, soit dit en passant, mais il reste que c'est une personne éprouvante, c'est une personne qui est tout entière un centre de conscience, d'émotion, etc. Alors, je le dis juste pour ceux et celles que ça intéresse, parce que Edith Stein, lorsqu'elle était à ce stade de sa vie, elle pensait comme une philosophe et c'était déjà quelque chose qui l'impressionnait. Comment se fait-il que j'ai immédiatement une intuition du fait que l'autre, ce qui devrait être uniquement de l'ordre de ma conscience, que je ne peux pas pénétrer la conscience des autres, en même temps, j'ai immédiatement cette intuition que l'autre aussi fonctionne sur le mode d'une conscience, avec tout ce qui peut affecter une conscience, avec tout ce qui peut se jouer dans une conscience. Après, la question des valeurs que l'autre a, des actes qu'il pose, etc., ça c'est une autre affaire. D'ailleurs, il est parfois là le choc de constater que je ne peux pas, il m'est impossible de faire une croix sur le fait que l'autre est une personne humaine dans toute sa conscience, etc., puis en même temps, il fait des choses qui sont répréhensibles. Je ferme ma parenthèse, mais je reviens à cette intuition que je vous partage, qui est que il me semble que plus dans l'oraison nous reconnaissons que nous sommes visités, nous sommes habités, nous accueillons, nous cherchons et nous accueillons avec gratitude cette relation avec Dieu que nous ne pouvons pas provoquer. C'est pas parce qu'on fait oraison qu'il y a relation. C'est pas parce qu'on fait oraison qu'il manifeste sa présence et nous c'est ça, nous accueillons avec gratitude les signes que la Trinité Sainte donne de sa présence et nous les lisons non pas simplement comme son intention d'être présente à nous, mais aussi d'être en relation avec nous et d'être dans une relation vivante et dans un échange vivant. C'est-à-dire qu'au travers, c'est exactement comme, de ce point de vue-là, c'est comme dans une relation interpersonnelle, au travers des signes par lesquels j'exprime à l'autre ma satisfaction, mon intérêt, mon goût pour sa présence, c'est un échange et c'est un partage qui se joue par-delà ce qu'on se dit et ce qu'on ne se dit pas, les ratés dans la conversation, les présences et les absences. En cela, dans cette expérience profonde de l'oraison, je crois sincèrement que c'est l'un des lieux où je peux le mieux pressentir, encore une fois, je ne peux pas me le représenter, mais pressentir que c'est tout mon être qui est touché, c'est tout mon être qui mûrit, et c'est avec confiance parce que ce qui me fait mûrir, ce qui me fait accepter profondément mon être et là où je vais, c'est cette relation de confiance avec ce Dieu dont je sais désormais. Mais là, je le sais désormais, je le sais vraiment qu'il m'aime. Je fais référence à la fameuse phrase de Thérèse Avila. Pour vrai, je le sais. Je le sais et je pense que cela nourrit une compréhension globale, profonde, pas forcément en termes d'idées claires, mais une capacité profonde à percevoir la totalité de l'autre, la totalité de la personne, de l'autre. Parce qu'encore une fois, personne ne peut voir le mûrissement, mais pressentir que chez l'autre, dans la connaissance qu'on a de lui, chez l'autre se joue aussi ce même mystère d'un mûrissement profond, qui sera toujours le soubassement, qui sera toujours un petit peu comme les racines seront toujours la raison profonde de cet arbre qui, à chaque printemps, là, on en. Bah, Les feuilles vertes, c'est le 15 mai, c'est pas avant. Mais si le 15 mai, on a des feuilles vertes, c'est que les racines, elles n'ont pas cessé d'être là. Donc je pense que ce mûrissement, il nous parle bien d'une profondeur d'être, à partir de quoi nous continuons de porter non seulement nous faisons des choses, nous disons des choses, mais nous portons aussi des sentiments. Nous exprimons aussi des désirs et des intentions. Et tout ça est vraiment l'expression s'est portée par ce mûrissement constant, profond en nous, qui ne se donnera jamais complètement à voir dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous exprimons, dans ce que nous partageons, et qui pourtant est là. Et je le pense parce que c'est ce que je crois ressentir à proximité de personnes qui sont soit leur fin de leur vie à cause de l'âge, soit la fin de leur vie à cause de la maladie. L'entrave qu'apporte la maladie ou l'âge à la capacité d'exprimer, etc. Cependant, lorsque la grâce en est donnée, parce que c'est loin d'être une. Je ne parle pas de quelque chose d'évident, là. Cependant, je ne sais plus comment était le début de ma phrase, donc je la reprends là où je peux. Il reste que ce mûrissement est sensible chez ces personnes. Et en disant cela, alors je l'avais déjà en tête, mais il s'avère que j'ai reçu il y a peut-être une semaine deux nouveaux recueils d'une poétesse française que j'aime beaucoup. Et le deuxième, je l'ai un petit peu acheté à l'aveugle. Le premier, je le connaissais déjà. Le deuxième s'appelle Peut-être des Lys de Judith Chavannes. Et c'est en fait une suite de poèmes qu'elle a écrits en accompagnant sa mère, très âgée, à la fin de sa vie. C'est absolument magnifique parce que, il y a bien effectivement une personne qui va vers sa mort et elle évoque d'une façon qui est très très belle. Et puis il y a ce qu'elle. C'est comme le noyau de la personne, ce mûrissement dont on ne verra pas ici-bas l'éclosion. Cette éclosion, on ne la verra pas. Le mûrissement est pour au-delà de la mort. Ça, c'est ce que nous. Non seulement c'est ce que nous croyons parce que c'est un credo que nous professons, mais il me semble que l'un des fruits de l'oraison, c'est d'entrer dans cette confiance plus profonde que nous mûrissons pour au-delà de notre mort. Et je pense que ça va de pair avec la façon avec laquelle nous accueillons les autres, la façon avec laquelle nous percevons la profondeur, la densité d'existence des autres, y compris lorsque cette existence, encore une fois, extérieurement, n'a rien de particulièrement remarquable, n'a rien d'éclatant. Voilà un petit peu, je m'arrête un peu comme d'habitude au milieu du gué, voilà un petit peu ce que je voulais vous évoquer ce soir.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la 8e rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom et intitulée L'oraison racines, fleurs et fruits. Pour participer à la soirée, qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercial@gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie pour toute la beauté de Saint Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Qui ne coûte aucune saveur parmi toute la création, seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit. Il découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur, où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin, qu'en ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.